Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde en Partage, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de l'actualité internationale sur Radio Centre-Ville. Une bonne nouvelle pour commencer cette émission, vous pouvez dorénavant nous écouter en balado-diffusion via iTunes en tapant tout simplement le nom de l'émission, mais sinon toutes les informations sont disponibles sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com. Alors, cette semaine, il est question d'un sujet qui a fait les manchettes, la surveillance numérique. Et nous allons nous pencher plus précisément sur, évidemment, le cas américain avec mon invitée Amélie Escobar. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Quand il est question d'espionnage des communications électroniques, on songe tout d'abord à la Chine, régulièrement montrée du doigt pour mener des actions de cyberespionnage des entreprises occidentales, censurer les sites internet critiques ou traquer les cyberdissidents. Et pourtant, les révélations sur l'espionnage des journalistes de Fox News, ainsi que sur le système Prism, nous rappellent, si besoin en était, que le Big Brother fait bel et bien partie de notre quotidien. Peut-on raisonnablement fermer les yeux sur cette surveillance ici parce que nous sommes en démocratie et la condamner là-bas? Comment situer le curseur entre respect de la vie privée et immixtion motivée par le contre-terrorisme? Ces divulgations ont peut-être au moins deux mérites, celui d'une prise de conscience citoyenne et de la nécessité d'un débat. En attendant, c'est vous, Amélie Escobar, qui allez nous permettre d'y voir un peu plus clair. Donc, vous êtes chercheuse en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, et je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Surveillance des journalistes de l'Association Press, de Fox News, une enquête fiscale sur les dirigeants du Tea Party, et maintenant les révélations fracassantes d'Edward Snowden, ça commence à faire beaucoup pour le président Obama qui s'attendait certainement à un second mandat plus calme. On va rentrer, si vous le voulez bien, dans le cœur du sujet. Pouvez-vous nous expliquer cette affaire Snowden ?
Tout à fait. Donc Edward Snowden, c'était un informaticien qui travaillait pour une société qui s'appelle BAH, qui était une entreprise privée qui faisait de la sous-traitance pour le service de la NSA aux États-Unis pour la surveillance électronique notamment. Et il a fait des révélations qu'on peut considérer effectivement comme étant fracassantes, où il a déclaré notamment que le gouvernement fédéral surveillait les transactions Internet des citoyens américains. Ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus, c'est le programme dans lequel il parle s'appelle Prism. Il a été mis en place à partir de 2006-2007 au Congrès, de façon à surveiller les flux d'informations qui circulent à l'étranger notamment, et pas forcément les citoyens américains. Donc ça, c'est une différence qui est vraiment importante. Et ce qui s'est passé, c'est que ces révélations-là tombent assez mal, puisqu'il est question d'une série de scandales dont vous avez parlé, qui fait que ça met Barack Obama dans une position assez délicate, et notamment le Pentagone, le ministère de la Défense.
Comment ces personnalités se sont défendues ? On va commencer par le président Obama. Comment a-t-il réagi face à ces révélations ?
Alors déjà, Obama n'a pas nié l'existence de ce programme. Il a informé la population que c'était un programme qui permettait d'éviter des attaques terroristes sur le territoire américain. Ce qui est un point très sensible pour les Américains. Dès qu'on parle d'attentats terroristes, bon, ils préfèrent se sentir rassurés par rapport à des menaces. Il a aussi rappelé qu'il était important de trouver un compromis entre la nécessité de la sécurité nationale, de sécuriser les Américains, puis en même temps de préserver la vie privée. Puis après, on a le Pentagone qui, lui, a déclaré que ce programme existait, mais que c'était tout à fait encadré par des mesures au Congrès.
Vous disiez que Barack Obama a cherché à défendre cette surveillance numérique et on a le sentiment que ces explications ont été entendues par les Américains puisque une étude du centre de recherche, le Pew Center, indique que 56% d'Américains, ce qui est une faible diminution par rapport aux études précédentes, 56% disais-je, qui approuvent les méthodes de surveillance de contre-terrorisme et 62% qui estiment que cette surveillance est encore plus importante que le fait de ne pas enfreindre leur vie privée.
Tout à fait. Alors, il y a eu différents sondages qui sont parus ces derniers jours et il y a eu des nouveaux sondages qui sont un petit peu contradictoires. C'est-à-dire que celui du Pew dont vous parlez, qui est tout à fait vrai, il a révélé effectivement que les Américains étaient considérés que la chasse au terrorisme et la collecte d'informations pour contrer des attaques terroristes étaient plus importantes que la préservation de la vie privée. Si on veut, dans une certaine mesure, il faut quand même qu'il y ait un certain encadrement légal pour ça. Mais par contre, un autre sondage assez intéressant qui est paru il y a quelques jours de Gallup, qui démontre, en fait, qui pose la question autrement et qui demande aux Américains si ils considèrent, ils sont favorables aux mesures prônées par ce programme de surveillance. Puis là, les Américains, contrairement aux précédents sondages, sont quand même majoritairement en défaveur de ces méthodes directes d'intrusion dans la vie privée.
Et quelle a été la réaction des associations, peut-être, ou des professionnels de l'information, puisque des sites comme Facebook, par exemple, ont été accusés de vendre leurs données numériques, ce dont on pouvait les soupçonner par ailleurs?
Alors, contrairement aux Américains qui ont plutôt assez bien réagi à cet événement-là, c'est plus les médias qui ont mis le feu aux poudres et qui ont déclenché cet effet de petite paranoïa, on peut appeler ça comme ça. Notamment, le Washington Post avait rendu public une liste de 9 entreprises, dont Google, effectivement, Facebook, Yahoo, des géants du web, où ils déclaraient que ces entreprises-là vendaient des renseignements à la NSA. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et puis, les entreprises ont réagi à ça et ont démenti ces propos en déclarant que c'était à nuancer et qu'effectivement, la NSA n'avait pas d'accès direct à leurs informations. Il faut passer par des procédures légales. Mais par contre, ils n'ont pas nié de collaboration avec la NSA. En ce qui concerne les associations et même le Congrès, les membres du Congrès, les partis politiques, les personnalités politiques, les réactions ont été assez mitigées. En général, on s'est assez insurgé de cette situation en déclarant que c'était vraiment une ingérence abominable du gouvernement fédéral dans les libertés individuelles et puis dans les libertés de presse en ce qui concerne les journalistes et puis l'Association Press qui a été surveillée également. Donc ces organisations-là se sont vraiment insurgées, ont peur que les mesures mises en place par le Patriot Act viennent à trop déborder sur la liberté individuelle. Où est-ce qu'on peut poser les limites? Ça, c'est les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui. Certains membres du Congrès se sont aussi insurgés, ont demandé la déclassification de certaines ordonnances qui ont été faites par les bureaux fédéraux pour avoir accès à ces écoutes téléphoniques, puis à certains accès Internet. Donc c'est ça. Il y a eu quand même des réactions assez importantes, notamment le POGO, le Project on Government Oversight, qui a décidé d'intenter un procès contre les dirigeants, notamment de la NSA, puis de BAH, l'entreprise qui employait Snowden.
On peut espérer en effet que ces troublantes révélations vont permettre de mener un vrai débat sur cette question de sécurité et de surveillance de la vie privée. Et c'est ce que nous allons faire juste après une courte pause musicale que j'introduis avec cet indice. Remember, remember the 5th of November. Les plus cinéphiles d'entre vous auront certainement reconnu un extrait de la bande originale du film V for Vendetta, composé par Dario Morianelli, et la musique s'appelle Remember, Remember, bien entendu. Nous sommes de retour avec Amélie Escobar pour parler des États-Unis et de la surveillance électronique. Vous parliez dans la première partie de l'émission du Congrès qui avait voté ces lois sur les surveillances électroniques. Il y a peut-être une forme d'hypocrisie alors que les membres du Congrès s'insurgent soudainement de cette immixtion dans la vie privée des citoyens, mais pas seulement américains. Non seulement de tous les utilisateurs des réseaux sociaux installés aux États-Unis. Et quels sont les fondements juridiques pour cette surveillance numérique ? Vous avez parlé du Patriot Act, notamment.
Tout à fait. Il faut savoir qu'après les attentats du 11 septembre, il y a eu donc le Patriot Act qui a été voté en masse au Congrès par les deux parties. Et certains amendements ont été apportés depuis, notamment en 2007 et en 2008, qui ont amené ces programmes de surveillance. Il faut savoir que ce n'est pas de la surveillance des citoyens américains sur le sol américain, c'est la surveillance des étrangers. Et ces programmes-là sont quand même encadrés légalement, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel... la NASA ne peut pas décider de surveiller ou avoir de poser des soupçons non fondés sur un individu et décider de surveiller ses communications. Et on ne surveille pas le contenu des communications, on relève les numéros de téléphone et on regarde la durée des communications. Donc il n'y a pas d'écoute de contenu des communications téléphoniques. Mais... il faut que, en fait, la Chambre des représentants, la commission ad hoc sur le renseignement, a voté ces lois-là qui de la FISA qui permettent justement d'avoir cette surveillance. Et il faut que, à l'aide de mots-clés, les ingénieurs qui travaillent pour la NSA aient suffisamment de données qui permettent d'avoir une probabilité de chance qui dépasse 51%. Que le citoyen en question soit américain et qui pose un danger direct pour les États-Unis. Donc ça ne se fait pas non plus sans cadre. Et puis il faut après ça passer par la Cour fédérale pour obtenir un mandat et avoir accès à ces informations. Donc ça, c'est dans la légalité. Et puis c'est quand même des mesures provisoires qui devraient se terminer au mois de juillet. Donc ce n'est pas de la surveillance qu'on continue. Il faut que ce soit quand même encadré. Puis les membres du Congrès ont voté ça, donc aussi bien les démocrates que les républicains. Donc il y a certainement une hypocrisie quand ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Oui, ils ont été informés de ces programmes-là, puis de la nature de ces programmes-là. Donc il y a quand même une certaine hypocrisie là-dessus, mais on a peur quand même des déviances pour les citoyens américains. C'est surtout ça que les gens ciblent, c'est l'atteinte aux libertés individuelles.
Ceux qui n'étaient peut-être pas au courant, en revanche, c'était les autorités, du moins le prétendent-ils, les autorités d'autres pays. Je pense par exemple le Parlement européen qui, en 2012, avait fait un rapport justement sur cette loi FISA dont vous parliez tantôt et qui s'inquiétait de l'atteinte à la souveraineté des États européens en termes de surveillance des données des citoyens des citoyens européens, au contraire. Quel peut être l'arbitrage que l'on peut donner entre la sécurité des données, la surveillance et puis le contre-terrorisme ? Puisque le directeur de la NSA, l'Agence de sécurité nationale, lui-même s'est défendu en disant que son programme avait permis d'empêcher des dizaines d'actes terroristes.
Tout à fait. C'est là où c'est le point vraiment sensible sur la question, c'est qu'on n'est pas vraiment capable aujourd'hui de savoir dans quelle mesure on peut poser des limites réelles, légales sur la surveillance électronique, sur des menaces étrangères.
Parce que si je peux me permettre, vous précisez que ça se faisait dans des conditions légales, juridiques également, mais comment s'assurer que ces conditions sont effectivement remplies une fois qu'elles sont appliquées dans les services de sécurité, qui par définition ont des activités totalement secrètes ? Non transparente.
Tout à fait. Ça, c'est la grande question, savoir comment est-ce que le cadre légal a été respecté. Il faut savoir que sous Bush, ça a souvent été... les frontières légales ont souvent été repoussées, mais sous Obama, il y a quand même un certain respect de ces mesures-là. Mais on s'aperçoit que, effectivement, En ce qui concerne, je pense, l'Union européenne, il y a un petit peu moins de problèmes de surveillance, mais pour des pays comme l'Afghanistan, comme l'Iran, comme la Chine, où il y a des cyberattaques, où il y a des conflits, des cyberattaques aussi bien de la part des États-Unis en Iran, par exemple, que de la part de la Chine, on a entendu de la Chine pour les États-Unis. Donc tout ça, c'est vraiment très délicat à percevoir. Donc, il faut encore attendre un peu de données supplémentaires pour pouvoir se positionner là-dessus, réellement, sur le cadre légal.
Comment peut-on se prémunir justement contre ces excès selon vous? Est-ce que ça ne doit dépendre que des citoyens? Est-ce que ça doit être une prise de conscience citoyenne et puis des associations de défense des consommateurs, des utilisateurs d'Internet? Ou est-ce qu'il peut y avoir des suites juridiques éventuellement en disant mais vous avez outrepassé le mandat qui vous était confié? Est-ce qu'on peut imaginer ce genre d'issue?
Alors, on peut imaginer des suites judiciaires. On va attendre de voir ce que le procès Pogo envers les dirigeants du renseignement va donner, si ça peut effectivement recadrer un petit peu cette surveillance des données.
Quel est ce procès dont vous parlez?
C'est l'association Pogo, ou c'est Project on Government Oversight, qui essaye de protéger les libertés individuelles et d'éviter que le gouvernement ait trop d'intrusions dans les libertés individuelles. Donc, suite aux événements, notamment de Snowden, puis des écoutes téléphoniques du journaliste de Fox News, puis de l'AP, ont décidé donc d'intenter un procès envers le ministère de la Justice, de la NSA, de plusieurs grosses têtes pour essayer de marquer vraiment un gros coup. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, je pense que ça va être un amalgame, une addition plutôt de différents comportements. Il faut aussi que les citoyens se responsabilisent eux aussi, qu'ils évitent de peut-être trop fournir d'informations personnelles sur Internet. Et en même temps, c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse mettre en place des mesures de cadrage un peu plus importante, mais c'est difficile à l'heure où tout est sur Internet, c'est vraiment difficile de se protéger de quoi que ce soit.
Une dernière question peut-être. Edward Snowden a trouvé refuge à Hong Kong, une région qui a peut-être un peu plus d'autonomie par rapport à la Chine, mais qui malgré tout a un accord d'expulsion avec les États-Unis. Quel pourrait être son avenir? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences sur les relations entre la Chine et les États-Unis qui sont déjà très tendues en matière de cyberattaque, de cyberespionnage des entreprises?
Alors le sort de Snowden est vraiment encore incertain pour le moment, mais c'est vrai que se réfugier à Hong Kong, je ne sais pas si c'était stratégiquement très parlant pour lui, étant donné qu'effectivement il y a des accords d'extradition avec les États-Unis. Donc les États-Unis peuvent très bien demander le rapatriement de Snowden aux États-Unis. Donc il va certainement y avoir des suites judiciaires, il va très certainement avoir un procès pour des révélations d'aussi grande importance. Donc ça va être à suivre, surtout qu'il va y avoir certainement les journalistes qui ont vendu la première interview de Snowden, comme le journaliste de The Guardian, puis celui du Washington Post peut-être. Éventuellement, il devrait y avoir des inculpations à prévoir. Après, dans la suite des relations avec la Chine, c'est assez délicat parce qu'il vient d'avoir une rencontre entre les deux présidents pour justement trouver des accords pour avoir un certain encadrement dans les cyberattaques. Alors, ça va être peut-être remis en question sur certains aspects. Il est encore un petit peu tôt pour se prononcer là-dessus, mais c'est sûr qu'il y aura des conséquences.
Un débat qui mériterait en tout cas bien plus qu'un quart d'heure, mais je vous remercie de nous avoir donné quelques clés de compréhension, Amélie Escobar. Et je rappelle que vous êtes chercheuse en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. La revue de presse d'Aline Zallé, c'est dans un instant.
Au rythme où le temps fuit, que qui mène, tu me suis. Nous changerons à la prochaine.
Avec 1000 miroirs, extrait de son dernier album, L'Instant Aimé. Joran qui sera en concert au Centre de Créativité le mardi 18 juin à 20h30 dans le cadre des Francofolies de Montréal. Aline, bonjour.
Bonjour Thibault.
Quoi est-il question ?
Aujourd'hui, notre revue de presse se branche sur Internet avec les élections présidentielles en Iran et l'élection surprise au premier tour du candidat modéré Hassan Rouhani.
De nouveau, c'est sur les réseaux sociaux que la jeunesse iranienne s'est exprimée durant cette campagne.
Oui Thibault, revenons tout d'abord aux dernières élections de 2009. À l'époque, l'Iran avait connu d'importants soulèvements suite à la réélection contestée du conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Soutenu par le candidat réformateur défait Mirousen Mousavi, le mouvement vert a rassemblé des millions d'Iraniens à Téhéran et dans tout le pays. Les réseaux sociaux avaient à l'époque joué un rôle non négligeable pour fédérer les mouvements et appeler les jeunes à manifester. On parlait à l'époque d'une véritable révolution Twitter.
Il y a quelques jours des élections, on peut imaginer que le pouvoir a renforcé son contrôle.
Ce n'est pas nécessairement dans les rues que l'excitation électorale s'exprimait, mais plutôt sur la toile. Un espace plus libre, mais seulement en apparence. Lui aussi était étroitement surveillé dans les fêtes. On apprend dans un article du site internet de la radio française Europe 1 que des milliers de comptes de messagerie Google ont été piratés et à mesure que l'élection approchait, la vitesse des connexions internet ralentissait fortement, limitant ainsi l'accès aux réseaux sociaux. Seuls les internautes iraniens munis illégalement d'un VPN à jour, c'est un système de connexion qui permet de contourner les éventuels blocages de sites web, pouvaient normalement accéder à Internet.
Comment l'opposition s'est-elle organisée sur les réseaux sociaux ?
Un article de France 24 se penche sur la mobilisation des jeunes qui ont soutenu le mouvement vert il y a 4 ans et qui ont réitéré leur engagement au candidat modéré Hassan Rouhani. Quelques semaines avant l'ouverture des bureaux de vote, ces jeunes internautes ont remplacé leurs photos de profil par des affiches « Je vote » assorties d'un bandeau violet, la couleur de la campagne du candidat modéré. Craignant le boycott, ils ont appelé à voter massivement comme rempart à une éventuelle fraude.
Dans un autre registre, on a vu sur la toile la seule femme iranienne à se présenter à ces élections.
Oui Thibault, le site d'information rue89.com raconte l'épopée pour la présidentielle d'une institutrice de 52 ans, prénommée Zara. Il s'agit en fait d'une candidate virtuelle qui est l'héroïne du roman graphique Zara's Paradise, une bande dessinée à succès écrite par les auteurs Amir et Khalil. Le programme électoral de Zara est fondé sur la défense des droits de l'homme, qui ne sont pas appliqués dans le pays. Ainsi, Zara défend l'égalité des femmes devant la loi, part en combat contre la peine de mort et milite pour un libre accès à l'information avec un déverrouillage total des échanges sur Internet. Et pour soutenir cette candidate virtuelle, les sympathisants pouvaient se rendre sur le site voteforzara.org. Cette fausse candidature a notamment été soutenue par les organismes de défense des droits de l'homme Amnesty International, la Fondation Bourramand et United for Iran.
Les élections se sont déroulées vendredi dernier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la participation a été élevée.
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation aurait atteint 72,7%. C'est tout de même moins que lors de la précédente élection présidentielle de 2009 qui avait atteint près de 85%. La télévision publique iranienne a annoncé que le candidat des réformateurs, Hassan Rouhani, a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour. Selon les résultats communiqués par le ministre iranien de l'Intérieur, il a obtenu 50,68% des voix, loin devant le maire de Téhéran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Le conservateur Saïd Jalili, qui avait les faveurs de certains cercles dirigeants proches du guide suprême, ne récolte que 11% des suffrages.
Peut-on affirmer que la mobilisation sur les réseaux sociaux a contribué au succès du candidat ?
Difficile à dire, Thibault. On peut surtout dire que le candidat Rouhani a profité de la participation élevée et du retrait de dernière minute de l'autre candidat réformateur. Le 11 juin dernier, les deux anciens présidents, Mohammad Khatami et Akbar Hashemi Rafsanjani, modérés eux aussi, lui avaient manifesté leur soutien. Mais Rouhani a aussi bénéficié de l'incapacité des conservateurs à s'unir derrière un candidat unique. Alors s'il est difficile d'affirmer que les réseaux sociaux ont contribué au succès du candidat, ils ont surtout été le reflet d'une volonté de changement de la société iranienne, durement touchée par les effets des sanctions de la communauté internationale dans le cadre du dossier nucléaire.
Merci pour ces explications, Aline. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci d'être à notre écoute. Pour en savoir plus sur le thème dont on a parlé précédemment, notre invité vous conseille l'ouvrage de Karine Prémont, Les secrets de la Maison Blanche, l'impact des fuites d'informations confidentielles sur la politique étrangère des États-Unis, et c'est publié aux presses de l'Université du Québec. Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com ainsi que sur notre page Facebook, et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en balado-diffusion. C'était Le Monde en Partage, Thibaut Temmerman à la réalisation. Merci encore à notre invité de ce jour, Amélie Escobar, ainsi qu'à Aline Zalé pour la revue de presse et son soutien à la technique. Dans un instant, vous retrouverez l'équipe du lundi pour le magazine Centre-Ville. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Il sera question de la Croatie, futur 28e État de l'Union Européenne. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville. On se quitte avec quelques notes extraites de la bande originale du film Persepolis.